J'entends des voix avec Luc Fortin et Christiane Campagna.
Bonjour à toutes et à tous. Si vous étiez à l'écoute d'Accès libre juste avant, vous le savez déjà. Aujourd'hui, ce n'est pas avec Christiane Campagna et Luc Fortin, l'émission J'entends des voix, mais ce sera strictement avec Christiane Campagna puisque Luc n'est pas là aujourd'hui. Mais je suis en bonne compagnie. On va passer une belle demi-heure à jaser balado et à jaser d'histoire. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que ça fait partie de mes dadas dans la vie. C'est aussi, en fait, un passé.
Bonjour, Christiane Campagna. Bonjour à tous.
Rebienvenue et bonne fête. C'était la fête de Jean-Sébastien en fin de semaine.
Et c'est le fun de travailler dans une radio. On se fait dire beaucoup de fois bonne fête.
Oui, c'est comme à nouveau ta fête à chaque nouvelle émission.
Ben oui. Fait que pendant toute la semaine, ça va être ma fête, c'est le fun.
Puisque comme les gens nous écoutent parfois, les émissions séparément, différées, je ne peux pas prendre de chance, je devais te souhaiter bonne fête en début de chacune des deux émissions. La semaine passée, heureusement pour toi, tu étais en vacances, c'est toujours agréable.
Oui, c'était fort bien. Merci.
Mais j'avais eu un bien mauvais timing avec mon spécial musique avec Marc-André Mongrain. Un double mauvais timing puisque tu étais absent et je sais que parmi les balados que tu écoutes, tu commences à en écouter, il y en a quelques-uns de liés à la musique. Et j'étais doublement mal timée parce que j'aurais aimé avoir plus qu'une personne en studio. Mais c'était les Bourses Rideau à Québec et la moitié des journalistes musicaux de Montréal étaient aux Bourses Rideau. Bon. Et la moitié qui n'y allait pas n'écoute pas de balado. Donc, j'ai dû me débrouiller, mais on a eu une super belle discussion. Vous retournerez l'écouter si vous l'avez manqué. Sinon, je suis restée dans le mode musique le lendemain, le mardi, puisque je suis allée au lancement du balado L'heure de Radio McGarrigle, qui est un balado produit par la Fabrique culturelle, derrière laquelle on retrouve Julien Morissette, qui est aussi chez Magnéto. Mm-hmm. On lui avait parlé pour le balado Synthèse avant les fêtes. Et j'ai commencé à l'écouter. C'est un plaisir de plonger comme ça dans l'univers des sœurs McGarrigle. Même que d'habitude, j'aime pas beaucoup les balados qui ont des chansons complètes, qui fonctionnent comme une émission de radio. Je suis pas dans ce mood-là quand j'écoute des balados, j'ai le goût qu'on me parle. Mais dans le cas de celui-là, ça le fait. Ça fonctionne parfaitement parce qu'on est en train de parler d'elles, de parler de leur style d'écriture et on entend une de leurs chansons. La seule chose, c'est que ce ne sont pas les sœurs McGarrigle que l'on entend, ce sont des reprises faites par différents invités. J'ai d'ailleurs entendu à Radio-Canada que c'est une émission où des gens avaient écouté le balado, c'était un reproche qu'on leur faisait. Moi, je pense que c'est une technicalité de droit. On y reviendra, on fera une entrevue avec Julien dès que possible. Mais moi, je pense qu'aller chercher la pièce sur un album qui avait été produit par une compagnie disque, ça doit être plus compliqué que de demander à Fanny Bloom ou à Tire le Coyote de l'interpréter exprès pour le balado.
Fort probablement. Moi, j'avais parlé à mon dernier passage que je commençais de plus en plus à avoir de balado à écouter et je me suis gâté dans ma... En fait, je n'en ai pas écouté pendant mes vacances du tout, mais la journée avant mes vacances, j'ai commencé à écouter The Edge of Sleep, qu'un de mes amis m'avait fortement conseillé, qui, bon, on s'en doute, avec le titre, c'est en anglais. C'est de la fiction et ça semble être une histoire semi-horreur, histoire de survie, donc dans un monde, je ne sais pas trop, post-apocalyptique ou je ne sais pas trop, je ne m'attendais pas à avoir envie d'écouter ça. J'ai commencé à écouter ça et j'ai été pris tant par le rythme, on embarque directement dans l'action et la production audio est incroyable. Les effets sonores, la musique, le mixage, c'est vraiment d'un tout autre niveau. Puis quand on entend la quantité de personnes qui ont travaillé sur le balado, il y a un générique d'à peu près 50 personnes, donc ça ne surprend pas. Et je me suis rendu compte, lorsque j'ai voulu télécharger l'épisode suivant, que je ne sais trop de quelle façon j'ai fait ça, mais j'ai commencé par l'épisode 5, dans une fiction. Donc, quand j'ai commencé directement au milieu de l'action, j'ai commencé littéralement au milieu de l'action. Donc, je n'ai pas encore écouté l'épisode 1, je ne sais pas si ça commence bien, je ne sais pas si ça finit bien, je ne sais pas si l'épisode 1 va me donner envie de continuer à l'épisode 2, mais je trouvais ça sympathique de commencer au milieu d'un balado comme ça et de trouver ça néanmoins assez prenant et assez intéressant pour avoir envie d'en savoir plus.
Ouais, ben, y a des enjeux de métadonnées ou de comment on a titré les épisodes, qui parfois dépendamment du lecteur qu'on utilise. Moi, je sais que avec l'heure de Radio McGarrigle, les épisodes ne sont pas numérotés. Alors, quand je les transfère, parce que bon, c'est une longue histoire, mais j'aime pas écouter mes balados sur mon téléphone principal. Et quand je les transfère sur l'appareil que j'utilise pour en écouter, Il se classe par ordre alphabétique.
Ce qui n'est pas toujours agréable.
Ben, pour... Je pense que dans ce cas-ci, ce ne serait pas si grave, mais en effet, quand... si ça arrivait avec une série comme Synthèse, une enquête, quelque chose, ce serait davantage problématique. Avec nous en studio, Charles Beauchesne, qui est humoriste et qui est le concepteur, l'animateur. Il n'est pas tout seul, mais...
J'ai de très bons auteurs avec moi.
Oui, c'est ça. Du balado, les pires moments de l'histoire.
Oui.
On en parlait un petit peu hors onde, juste avant que l'émission commence. On demande à nos invités de nous parler de ce qu'ils écoutent, mais il arrive que les gens qui font du balado en écoutent peu.
Oui, vous faites référence à moi, là.
Ah, voilà, il fallait le tourner comme ça. Voilà, tout le monde est content. Désolé pour les petits boum-boum, les amis. Oui, non, j'écoute peu de balado moi-même, en fait. Mais c'est fou parce que c'est intéressant l'histoire du balado. C'est surprenant de voir l'émergence de ce média-là en ce moment qui est en train de devenir un petit peu... puis là, je veux pas sonner comme un oiseau de malheur, mais le remplacement de la radio, entre guillemets, ou genre l'équivalent, le prolongement
la radio
moderne,
qu'on écoute comme on veut, quand on veut.
Et voilà, au même titre que Netflix et le prolongement de la télévision. On est à une ère de ça, de consommer ce qu'on veut quand on en a envie. Et voilà, c'est ça qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'il y a une explosion de balado comme ça à gauche, à droite. Puis on est encore en train de découvrir, on est encore les Christophe Colomb de la balado-diffusion. Puis ça donne lieu à toutes sortes de concepts. Et j'ai l'impression, c'est ça, qu'on est encore au Québec en train de découvrir nos options face à ça. Et là, c'est super intéressant, je pense.
Oui, parce que comme Netflix aussi, je sais que les personnes qui sont parfois moins techno viennent nous voir, nous posent la question. Il y a un petit obstacle à franchir sur le plan technologique.
Ah, oui.
C'est quoi un balado? Comment on s'abonne?
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce que je syntonise? C'est magnifique. C'est tout ce que vous voulez écouter. Voilà, exactement. C'est tout ce que vous voulez écouter. Mais quand vous voulez, vous pouvez le... Voilà. Vous pouvez. C'est dans l'air du temps. Puis j'ai l'impression qu'on est tranquillement en train de faire la transition vers ce mode de fonctionnement-là. Puis autant je vous dire en télévision qu'en radio, mais rendu. Voilà, la question c'était, non, je n'écoute pas beaucoup de balado parce que j'ai la chance de travailler à une époque où on est en train de découvrir c'est quoi les balados et tout est possible.
Mais pour compenser, et je vais te laisser aller là-dessus, tu avais décidé de nous recommander des balados faits par des amis et pourquoi pas?
Non seulement des balados que j'ai faits avec des amis, mais des balados auxquels je suis allé participer en tant qu'invité. Parce que c'est ça donne une perspective différente de participer à cette affaire-là. Et moi, c'est mon Dieu, autant dire que c'est ma façon de consommer des balados que d'y être invité, de les vivre dans les premiers sièges. Mais c'est ça. En fait, il y a énormément d'humoristes qui font des balados au Québec. Le milieu de l'humour c'est approprié ça ici, littéralement pirater la balado, puis ça fait que à ses débuts, j'ai l'impression qu'au Québec, on a souvent tendance à associer les balados à des balados humoristiques ou à des conversations d'humoristes souvent. Ce qu'on fait depuis Sous-écoute et compagnie là, qui ont donné naissance à 150 milliards de rejetons de cette formule-là.
C'est une façon, parce que c'est pas tout le monde qui a la même notoriété.
Oui.
Et parfois, on peut faire de l'humour plus niché. C'est une façon d'aller directement chercher ton public sans passer par le filtre d'un grand réseau qui aurait décidé de t'offrir une chronique ou de t'offrir un micro.
C'est moins cher, c'est moins ardu que de faire de la vidéo. C'est drôle, il y a une dizaine d'années, la grosse affaire quand tu voulais faire de l'humour au Québec puis commencer à percer sur le web, c'était les web-séries. C'était tout le monde avait sa web-série, tout le monde filmait sa web-série, puis finalement, les gens se sont mis à faire ça de façon professionnelle, puis les budgets ont explosé, puis c'était possible de faire ça. Et le podcast est devenu la nouvelle web-série, la nouvelle façon de se faire voir en tant qu'artiste de la relève. C'est super intéressant. Moi, j'ai, dans les moments les plus fun que j'ai eu de podcast, le podcast de Guillaume Wagner, que j'adore beaucoup, qui est un ami et collègue, qui lui, diverge de la formule. On reçoit des humoristes en buvant des bières, qui n'est pas une mauvaise formule, soit dit en passant, là. Ça fait ses preuves. Mais qui va justement inviter des artistes de la musique, des philosophes, des historiens, un gros paquet d'humoristes, parce que c'est un milieu qui est gros comme ma poche, puis on est toutes des amis, ou de terribles ennemis. Mais en grande partie des amis. Et je trouve ça intéressant parce que c'est des sujets larges, des sujets intéressants qui sont abordés par un humoriste et non l'humour qui se regarde lui-même constamment. Et ça, pas que c'est inintéressant, nous l'avons vu. ça arrive souvent. J'aime beaucoup le podcast de Guillaume. Je le trouve très pertinent.
J'en écoutais des bouts dans ma préparation pour cette entrevue.
Oh, d'ailleurs, mon Dieu, est-ce que c'était des bouts où j'étais là? Est-ce que c'était à propos de moi?
Ben, c'est toi que je recevais aujourd'hui.
Ben, ça fait du sens. Non, je faisais mon... faussement le mégalomane. J'avais bien aimé, moi, aller à celui de... Oh mon Dieu, je l'ai-tu noté? Martin Perizzolo, qui fait son podcast Vieux Garçon, où on parle... On parle de relations de couple, on parle de célibat, on parle de... Évidemment, il reçoit souvent des artistes, souvent des humoristes aussi, on s'en sauvera pas. Et c'est... Moi, je le trouve très pertinent, celui-là, parce que c'est un podcast où on vient se livrer de façon sentimentale, quelque chose que bon, qui n'est pas nécessairement évident à faire quand tu es en train d'essayer de t'auto promouvoir en tant que produit, surtout dans le milieu de l'humour où on a souvent tendance à vouloir se mettre dans une... Quand on fait du stand-up, on se met dans une position où on est intouchable, on se met dans une position où on a, entre guillemets, de facto raison. Et là, les gens trouvent ça drôle parce qu'on a donc raison, parce qu'on a donc... c'est de la poudre aux yeux, en fait, on n'a pas raison là, la plupart du temps. Là, c'est arrangé, c'est une pièce de théâtre où on a raison. Et voilà, vieux garçon, on vient, mon Dieu, on vient livrer qui on est en tant qu'être humain, qui on est sentimentalement. Et, mon Dieu, tout le monde a des sentiments, puis tout le monde vit... Des histoires amoureuses, du rejet, de la tristesse par rapport à ces choses-là. Et surtout dans le milieu artistique, surtout si tu décides d'avoir des relations entre artistes, ça donne souvent lieu à des téléromans. Pas littéralement, mais figurativement.
Ben, je vais t'arrêter maintenant, oui, parce qu'on t'a quand même invité pour parler du tien, mm-hmm, du balado Les pires moments de l'histoire. Et juste avant de s'y mettre, pour avoir une idée du ton, on va écouter l'introduction d'un épisode.
Bien sûr.
Bonjour et bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast où on réalise peu à peu que les pailles en papier et le compost, ça effacera jamais le vrai problème, l'être humain. Am I right? Donc, après le retentissant succès en standard de podcast de mon top 10 des pires papes, j'ai décidé de refaire un BuzzFeed de moi-même, question de capitaliser sur le format le plus populiste possible pour augmenter le nombre de téléchargements qui est à galvauder le concept de bord en bord pour toujours. Inutile de vous dire qu'il y a de la poudre de fée dans l'air dans ce studio. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de vous brosser un portrait peu flatteur de nul autre que la royauté. Mais pour une fois, laissons de côté les rois et les reines et allons faire un tour du côté de leur famille élargie, les princes, princesses, ducs, comtesses, impératrices, pour se rendre compte à une vitesse surprenante que c'est aussi quand même pas pire coucou sur les cocopofs sur le palier d'en dessous. Bref, inquiétez-vous pas, même si on parle pas techniquement toujours de roi ou de reine, vous serez pas en reste côté zinzin. Laissez-moi candidement vous rappeler que la plupart des lignées royales sont très agressivement congénitales, puis vous pouvez être certain qu'il y a du bébé génétiquement en faillite qui sort de l'atelier à héritier. Et même dans les cas où la personne est issue d'aucune lignée royale, des fois c'est la seule promesse du pouvoir qui suffit à transformer les gens en individus qui pitchent des femmes de chambre par la fenêtre quand ils perdent aux échecs. Bref, aujourd'hui, je vous fais un petit top 10 des pires princes, princesses et autres membres de la royauté complètement cinglés. Ah ouais, Manon, pèse sur le piton. Mais pas comme avec qui?
Alors ça, c'est un extrait d'un épisode de la deuxième saison.
Oui, le top 10 des pires princes et princesses.
Okay, parce que déjà, la première saison était parue au printemps 2019.
Oui, exactement.
Et l'automne dernier, la deuxième saison.
Oh, l'automne, on a joué avec les, on a joué avec les mots sur celle-là. C'est sorti le 21 décembre, mais c'est l'automne techniquement.
En fait, bon, donc il y a maintenant deux saisons. Et ce que j'ai compris justement, notamment en t'entendant avec Yoav Wagner, c'est que l'histoire et ta vocation d'humoriste sont liées depuis longtemps à cause d'un professeur.
Oui, j'ai eu la chance... je raconte tout le temps cette histoire-là, j'aime ça. moi, j'ai eu la chance d'avoir... j'avais pas d'amis, moi, quand j'étais à l'école. J'ai eu la chance d'avoir un très, très bon professeur d'histoire qui s'appelle André Champagne, d'ailleurs. Je le resalue une énième fois s'il écoute.
Qu'on peut entendre à aujourd'hui l'histoire.
Oui,
parfois.
Entre autres choses. Et si je ne m'abuse, il enseigne l'histoire à l'École nationale de théâtre, une espèce d'affaire comme ça en ce moment. Mais oui, voilà, d'avoir un professeur qui est passionné par sa matière, qui fait de la matière un spectacle, hein, qui est investi dans ce qu'il raconte. Moi, c'est comme inconsciemment. C'est les bases du stand-up, c'est les bases de l'humour, c'est raconter une histoire en se trouvant drôle de la raconter, en sachant ce qui est drôle dans les événements qui s'en viennent. C'est faire de l'histoire, et avec un grand H, et de raconter des histoires en général, un spectacle. Et je pense qu'inconsciemment, c'est comme ça que je sais pas, c'est un professeur qui me faisait parler en classe. C'est un professeur qui avait noté genre ma fascination pour les détails un petit peu plus croustillants, un petit peu plus sanglants de l'aventure historique.
Ils sont bons pour aller chercher l'ado.
Et voilà, exactement. Étant ado, j'étais le premier à être séduit par cette affaire-là. On peut même dire que j'étais le premier public de mon propre podcast. Mon Dieu, que ça sonne mégalomane.
Mais c'est une association qui est restée longtemps parce que dans tes spectacles aussi, il y a de l'histoire.
Bien sûr.
Là, en ce moment, tu fais un spectacle sur Jack l'Éventreur.
Mm-hmm. Mais ça a commencé en 2013 avec Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes.
Sujet rigolo, s'il en est un.
Comment dire, moi, je trouvais ça tellement intéressant que l'humour se manifeste de lui-même là-dedans. À toute fin pratique, la peste noire de 1347, c'est une apocalypse zombie au Moyen-Âge, à l'époque où les gens n'ont aucune idée c'est quoi un microbe. Et tout le monde, après ça, pendant une des pandémies les plus ravageuses que la planète ait connues, tout le monde a constamment pris les mauvaises décisions au fur et à mesure parce qu'on est au Moyen-Âge et les gens n'ont absolument aucune idée de ce qui est en train de leur tomber dessus. Il y a 200 millions de personnes qui sont mortes de la peste noire. Ça crée un reboot de l'Europe médiévale qui a donné lieu à la Renaissance. C'est fascinant.
Et les pires moments d'histoire, cette idée, la genèse de dire je fais un podcast avec ça.
C'est parti justement de ce spectacle-là. Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes. En fait, ce qui s'est produit, c'est que circa 2016, j'avais sorti mon deuxième one-man show de stand-up et les choses n'allaient pas aussi bien que je voulais. Et c'était le moment où il fallait commencer à faire du web si on ne voulait pas être oublié. Je me demandais en passant, je suis un dinosaure dans la vie, je suis pas capable de j'ai une utilisation très minimale et préhistorique des ordinateurs, et je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Est-ce que je fais une web-série encore? Est-ce que ça va coûter trop cher? Ça va être sur une tablette? Ça va être l'enfer? Ou je peux prendre quelque chose qui me fait plaisir, comme par exemple jaser d'histoire, qui est un sujet infini, puis prendre le concept que j'avais avec la conférence sur la peste noire et refaire ça individuellement à l'infini, et voilà, en ayant toujours quelque chose à offrir et en ayant toujours de la passion et du jus à raconter ces histoires-là. Et voilà, je me suis assis avec mes auteurs Audrey Rousseau, François Le Grand Pré, Catherine Thomas à l'époque aussi. Voilà, on a donné la première mouture des pires moments de l'histoire, et c'était pas... je ne m'attendais pas à ce que ce soit un succès nécessairement. Je m'attendais à ce que ce soit un truc que je donne aux gens en attendant de les inviter venir voir des spectacles de stand-up. Voilà, comme un démo. Semer aux quatre vents qui je suis artistiquement, si une telle chose est possible. Et Voilà, la première chose que je sais, c'est que les gens aiment ça et qu'on se ramasse dans les palmarès de podcasts nord-américains. Puis là, il y a Joe Rogan puis ma grosse face à côté. Je me dis, oh, grand Dieu, non, tu n'étais pas censé être ça.
Ben, je pense qu'une des raisons de ça, c'est qu'il y a deux choses dans ce balado. C'est-à-dire, oui, c'est drôle, même si au départ, la matière ne devrait pas l'être. Mais il y a aussi une grande rigueur. Je pense à l'épisode sur les Vikings, à l'épisode sur les pirates. Mmh. Tu défais beaucoup de mythes et d'idées préconçues, donc il y a une grosse recherche derrière.
Oui, mais comment dire... c'est drôle en ce moment, en plus, je suis en train de divulgacheur. Je suis en train de faire de la recherche sur Genghis Khan et l'Empire des Mongols pour la saison 3, et c'est un... C'est un labyrinthe infini d'informations.
On vient donc d'apprendre qu'il y aura une saison 3?
Oui, il va y avoir une saison 3, mais je vais essayer de garder le secret.
OK, on le dira pas.
Oui, puis voilà, c'est l'enfer. Là, il faut que je couvre 200 ans à peu près un siècle de batailles de Mongols qui se poursuivent sur des générations puis des générations, puis afin d'être capable d'être drôle, afin d'être capable de justement soulever... Parce que j'essaie de ne pas insérer des gags dans l'histoire. J'essaie de souligner à quel moment l'histoire a été véritablement amusante. Ou du moins, selon moi, expliquer pourquoi les choses sont amusantes. Ça fait que pour être capable de faire ça, ça me prend une compréhension de mon sujet du point A au point B. Afin d'en faire une bonne synthèse, et à partir de ce moment-là, à partir de la synthèse, là chacun de mes points peut être humoristique, peut être, de grossier, understatement, comment est-ce qu'on traduit ça déjà?
Des euphémismes?
Ouais, voilà, des euphémismes. J'adore faire des euphémismes et synthétiser la matière historique, aussi terrible soit-elle, par de grotesques euphémismes. Et voilà, ça fait partie de l'esprit de synthèse de cette affaire-là.
Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles que toi? Moi, j'ai senti, en écoutant la deuxième saison, que Léopold II, tu avais eu plus de difficultés à le trouver drôle. C'est-tu parce que c'est plus récent, les conséquences sont encore très présentes?
C'est pas tant que j'ai eu plus de difficultés à le trouver drôle, c'est que, surtout dans le cas de Léopold II, en fait, il faut faire attention. C'est récent. On parle de colonialisme, on parle du pire type de colonialisme qui existe. Et il faut faire attention que... Je veux pas m'amuser aux dépens des victimes de ces choses-là. Je dirais que c'est pas tant que j'ai eu de la misère à rendre Léopold II... à trouver le drôle de Léopold II. Juste que tout le drôle est concentré sur lui. Et à un moment donné, il n'y a qu'un nombre limite de fois que je peux expliquer qu'une personne en est une très mauvaise. Maintenant, je pense que l'humour de ça, c'est de voir... c'est de considérer que on ne connaît pas cette histoire. La plupart des gens ne connaissent pas cette histoire. Léopold II est encore un souverain qui est... Il y a des statues de lui dans les parcs en Belgique. Les gens, tout le monde s'obstine sur Hitler comme étant le plus grand diable que l'histoire a connu. Oui, c'est bel et bien dans les plus grands, mais il y a toutes sortes de diables dans l'histoire.
Ça peut varier en fonction de où est-ce qu'ils ont sévi et auprès de quelle population.
Oui, à quel point cette information-là a été balayée sous le tapis, à quel point ça a un impact direct dans la vie des Européens. C'est terrible ce que je dis là, mais on a souvent tendance à se rappeler des choses qui ont influencé l'Europe, parce que c'est notre point de vue de blanc, j'imagine, ou dans notre narcissisme, c'est sur l'Europe qu'on focus parce qu'on est une société européenne d'une certaine façon. Le point que je veux faire à travers tout ça, c'est que tout est un peu aussi terrible. Tous les événements sont aussi terribles les uns que les autres, en fait.
Cette nécessité de faire attention de qui on parle, est-ce que c'est ce qui fait que tu vas continuer à aller davantage vers ce qui s'est passé il y a très longtemps en Europe, en Asie, que ce serait plus délicat de toucher à l'histoire du Canada et du Québec?
C'est drôle, j'ai un épisode de québécois dans la saison 3 sur lequel on est très... deuxième divulgacheur. Je voulais qu'on parle des avec ma comparse Audrey Rousseau, qui est co-auteur sur le podcast. On avait écrit un épisode spécial sur les allumetières des usines de Ezra Butler en Outaouais pendant la révolution industrielle. Et là, on va faire un épisode là-dessus sur le travail des femmes, les premiers syndicats féminins, etc., etc. Et c'était tout aussi monstrueux que Genghis Khan.
Même si on est là pour parler de balado, je les ai mentionnés tout à l'heure, parle-nous un petit peu du spectacle que tu donnes ces jours-ci, donc sur Jack l'Éventreur.
Oui, c'est une... C'est drôle, j'ai... J'arrive, j'ai un point à faire avec ça. J'ai également des chroniques... des chroniques régulières à une autre émission de radio où je fais des mini...
T'as le droit de la nommer.
La soirée est encore jeune, voilà. Je fais des mini pires moments de l'histoire. Ça, c'est les petites versions des pires moments de l'histoire. Ensuite, j'ai mon podcast qui est un peu la version moyenne de ces histoires-là, de mettons 35 à 45 minutes à peu près. Et j'ai mes conférences, ce que j'appelle mes conférences historico-humoristiques. La peste noire en était une, Jack l'Éventreur en est une aussi. Je prends un sujet et j'en parle devant public avec diapo et dans les détails pendant 60 minutes. Donc là, je m'attaque à Jack l'Éventreur. Et c'est un spectacle que je trouve tout à fait spécial parce que... J'ai des effets de... J'ai des punchs de terreur dedans. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très étrange à gauger. Surtout en tant qu'humoriste, on est habitué à ce que la réaction qu'on a tout le temps, c'en est une de... C'est le rire, c'est le positif, c'est les gens qui sont heureux. Là, maintenant, j'ai les mêmes mécanismes pour déclencher du mal-être. Parce que c'est Jack l'Éventreur, parce que c'est l'histoire de... C'est possiblement les féminicides les plus... terrifiant et flamboyant que la planète ait connu. C'est une légende. On a peu d'informations. En fait, Jack l'Éventreur lui-même, l'homme, on n'a aucune information sur lui.
On ne sait toujours pas ce que c'est.
Aucunement. Et je veux dire, les scientifiques, tout le monde est toujours en train d'essayer de trouver l'identité de Jack l'Éventreur. Ça n'a aucune importance. C'est un trou noir historique autour duquel il y a une galaxie d'informations, et c'est sur cette galaxie-là que je me... C'est sur les personnages qui gravitent autour que je me concentre.
Rapidement, on revient sur les pires moments de l'histoire. On le trouve sur toutes les plateformes?
Oui. On est de YouTube à iTunes à Spotify. On est sur toutes.
Et pour ceux qui cherchent un poste, vous allez sur le site d'Urbania et vous allez les trouver si vous ne fonctionnez pas par abonnement. Ben, on vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine. On va recevoir les deux filles Anne-Sophie Carpentier et Brigitte Noël derrière le Casanova de Montréal. Et la semaine suivante, on aura Gabrielle Allard-Gagnon qui vient nous parler de Cité des Prairies. C'était J'entends des voix. À la semaine prochaine, tout le monde, avec Luc, on l'espère.